Vous êtes sur RTL.
RTL Matin.
RTL 7h44, à l'heure de la guerre en Europe, les Républicains ont choisi un général comme numéro 3 de leur liste pour les européennes. Amandine Bégaud, vous recevez ce matin le général Christophe Gomard.
Christophe Gomard, le patron des Républicains. Éric Ciotti a vivement critiqué ces dernières semaines Emmanuel Macron et son changement de ton à l'égard de la Russie. Il accuse le président, je le cite, de jouer avec les peurs, d'instrumentaliser cette guerre en Ukraine à des fins électorales en évoquant un possible envoi de troupes françaises en Ukraine. Est-ce que vous, qui avez dirigé le renseignement militaire, les forces spéciales, vous êtes d'accord avec Éric Ciotti, le président joue avec les peurs?
Le président joue avec les peurs, oui. C'est vrai que la guerre est aux portes de l'Europe. On ne peut nier. Avec des Ukrainiens qui malheureusement actuellement reculent un peu face à la poussée russe, face à l'artillerie russe. Donc oui, on a un petit sujet effectivement face à cette guerre. Ce que demande le président Zelensky, lui, demande des munitions. Et je crois que ça a été très bien résumé par le Premier ministre polonais, Donald Tusk, qui dit... Moins de mots, plus de munitions. Et je crois que c'est ça le vrai point.
Donc des troupes françaises sur le sol ukrainien, pour vous, c'est inenvisageable. C'est pas une option. Ça n'arrivera pas.
Aujourd'hui, d'ailleurs, Zelensky ne demande pas de troupes occidentales sur son sol. Lui, il réclame à chaque fois à nouveau des munitions. Il ne réclame rien d'autre, en réalité. Et d'ailleurs, même l'OTAN dit, mais nous, on va vous aider à fournir des munitions, sans doute en nombre insuffisant, malheureusement, pour les Ukrainiens, mais c'est ce dont ont besoin aujourd'hui les Ukrainiens, de mon point de vue. Le point, c'est que les Ukrainiens n'ont pas mobilisé tous leurs hommes. Donc, c'est bien la preuve que s'ils n'ont pas mobilisé tous leurs hommes, c'est qu'ils n'ont pas forcément besoin des nôtres. Ils ont besoin de munitions.
Sauf que depuis le début de cette guerre, depuis deux ans, on voit bien que les choses évoluent. Au départ, on avait dit une aide humanitaire, matérielle, mais pas d'armes. Et puis des munitions, des armes, on avait dit mais pas de chars, par exemple. Et puis des chars. On évoque aujourd'hui la question d'avions de chasse.
Oui, il est vrai que...
On recule chaque fois les limites.
Les Occidentaux ont mis du temps à répondre effectivement aux demandes exactes des Ukrainiens. Mais il a fallu du temps pour s'organiser. Je crois que les Occidentaux se sont organisés. La France fait partie des pays qui donnent. Ça n'est pas le pays qui donne le plus, c'est vrai. Mais la France donne. Et je crois que c'est vrai qu'on n'a pas donné suffisamment de chars. Mais la vraie difficulté, c'est qu'en Europe, vous avez 10 modèles de chars différents. Vous avez 10 modèles d'avions différents. Et tout c'est, en termes de maintenance et de soutien logistique, c'est devient très très compliqué pour les Ukrainiens en réalité. Donc ce qu'on a cherché à donner, je crois, c'est plus du matériel à peu près du même type pour que le soutien logistique soit plus facile.
Gouverner, c'est prévoir, a rappelé Emmanuel Macron quand il a expliqué justement ses intentions. Il faut se préparer à toutes les éventualités, non, quand même. Si demain il fallait envoyer des troupes françaises, on ne sait pas ce qui peut se passer dans les prochains mois, on lui reprocherait de ne pas l'avoir préparé, ça.
En tant qu'ancien militaire, je sais que l'armée française planifie et on n'arrête pas de planifier. On fait la planification, c'est-à-dire qu'on se prépare à toute éventualité, à un conflit majeur. Mais c'est vrai que quand vous regardez le livre blanc de 1994, on prévoyait un scénario 6, je crois, d'un engagement majeur face à un engagement conventionnel, j'allais dire, une guerre de haute intensité. Et les livres blancs suivants ne parlent plus de ça. Donc on a une armée française aujourd'hui qui est une armée qui a été utilisée, qui a payé le prix du sang, mais qui ne dispose sans doute pas de suffisamment de masse en termes de canons, en termes de munitions, en termes de chars, et en termes d'avions et de frégates.
Donc,
on planifie une intervention possible, mais je pense que au-delà des mots, derrière, il faut mettre des actes. Des actes, c'est quoi? C'est renforcer notre défense. C'est mettre plus d'argent. Mais c'est vrai qu'avec une dette de 3 200 milliards d'euros, c'est bien difficile. Mais c'est bien d'avoir des mots de fermeté. Encore derrière, faut-il avoir une
donc ça ne suit pas, en fait, si je vous comprends.
Ça ne suit pas, exactement. On ne fabrique pas nous-mêmes nos propres obus. On achète la poudre en Australie, la cellulose, on l'achète ailleurs. Donc on voit bien derrière qu'il y a un besoin de se réarmer, mais pas uniquement dans les paroles. Il y a un besoin de se réarmer réellement et concrètement.
Emmanuel Macron n'est pas le seul à évoquer cette hypothèse. Le chef d'état-major de l'armée de terre le dit aussi dans une tribune qui a été publiée ces derniers jours dans le journal Le Monde, il est assez clair. Les nouvelles formes de conflictualité, dit-il, s'ajoutent aux anciennes sans les remplacer. Il cite par exemple la guerre électronique qui n'est pas exclusive de corps à corps. Et il ajoute « La dissuasion nucléaire n'est pas une garantie. L'armée française se prépare aux engagements les plus durs. Le fait savoir et le démontre. » Le fait de le faire savoir, ça fait partie de la guerre aussi,
bien
ça.
Sûr,
on est
sûr,
d'accord.
Bien sûr, il y a une dimension psychologique, c'est-à-dire qu'on montre notre capacité à le faire si on nous le demande. D'ailleurs, l'armée française est prête. L'armée française est prête à engager. C'est la seule armée européenne qui a été réellement engagée de manière opérationnelle à travers l'Afrique, à travers le Sahel, à travers en Afghanistan, également en Irak, qui est encore engagée sous casque bleu au Liban. Donc l'armée française est prête de manière opérationnelle. Ce qui lui manque sans doute, c'est un peu la masse. Et là, vous avez raison, c'est qu'il faut sans doute plus développer notre guerre électronique face à la guerre électronique russe, russe, qui est très très puissante. Il faudrait redévelopper sans doute, avoir plus de drones, avoir une artillerie solaire sans doute un peu plus puissante et plus légère que celle que nous avons, et pas uniquement des missiles qui vont détruire des drones. Donc oui, on a besoin sans doute, non pas de se réinventer, mais de se réarmer concrètement.
Et le fait d'agiter cette menace, ça peut changer quelque chose à l'égard de Poutine? Est-ce que ça peut, bon, je vais vous le dire très trivialement, l'agacer par exemple?
Poutine est agacé, mais j'allais dire, on s'en fiche qu'il soit agacé, Poutine. Depuis le début, c'est lui qui nous agace. Oui, c'est pas très grave.
Mais on peut être crédible face à Poutine sans jamais, si on dit on n'enverra jamais personne?
D'abord, la France ne s'engagera pas seule. La France, elle s'engagera en coalition. En coalition au sein de l'OTAN. Et dès lors, vous allez me dire, mais si les Américains veulent pas? Justement, je pense qu'il s'agit de développer un pilier européen, une architecture de sécurité européenne, c'est-à-dire un pilier européen au sein de l'OTAN. C'est-à-dire que les Européens soient capables, entre eux, de pouvoir effectivement mener un combat de haute intensité face à un adversaire qui nous attaquerait.
Christophe Gomard, je le disais, vous serez donc numéro 3 sur cette liste, vous êtes numéro 3 sur cette liste, les Républicains pour les élections européennes. Est-ce que ces élections peuvent vraiment avoir un impact, des conséquences sur cette guerre en Ukraine?
Alors je ne sais pas si ça a un impact, mais en tous les cas, nous sommes à plus de 2 mois des élections européennes qui auront lieu le 9 juin. Il me semble important, en tous les cas, de porter à la connaissance des Français et des électeurs ce qu'il en est exactement de l'état de la situation, de l'état de nos forces. Est-ce que ça changera quelque chose dans cette guerre? En tous les cas, je pense que les Français doivent continuer à apporter leur soutien aux Ukrainiens, de soutenir ce pays qui a été attaqué le 24 février 2022. Je pense que c'est nécessaire, en effet, et j'espère que ça réveillera certains esprits.
Je le rappelais, les Républicains ont vivement critiqué l'attitude d'Emmanuel Macron dans notre baromètre. Tolona Harris Interactive pour RTL et M6, publié aujourd'hui. La liste LR, justement, pour ces européennes est encore à la peine. Hein. 7% d'intention de vote, au coude à coude avec les écologistes, et loin derrière le RN qui est à 30%, extrêmement haut, et Renaissance à 18%. Est-ce qu'en vous en prenant à la politique d'Emmanuel Macron, finalement, vous ne vous trompez pas de combat ou d'adversaire? C'est pas sur le RN que vous devriez taper?
Alors écoutez, je rentre en politique, c'est un saut un peu dans le vide, mais comme je suis un ancien chuteur
opérationnel,
parachutiste, pour moi c'est un vrai challenge, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a les sondages, c'est très bien, mais au-delà des sondages, pour moi effectivement c'est l'occasion pour la droite classique, c'est-à-dire de reprendre et de se repositionner en tant que parti de la liberté, parti de responsabilité.
Et qu'est-ce qui différencie justement les LR et le RN sur ces questions-là de défense?
Pour moi, le RN n'est pas un parti de responsabilité. D'ailleurs, à tel point, c'est que lors du vote à l'Assemblée ou au Sénat, le RN s'est abstenu. Donc il y a un non-choix derrière. Alors que les Républicains se sont engagés à soutenir l'Ukraine. Donc oui, pour moi, il y a une véritable différence.
Merci beaucoup, Christophe Gomard, donc candidat pour ces élections européennes, numéro 3 sur la liste des Républicains.
La France a besoin de se réarmer, vient de nous dire le général Christophe Gomard. Vous restez avec nous, vous êtes dans l'œil de...